Bienvenue à BetaFinch, votre analyse d'earnings générée par l'IA. Je suis Alex, et aujourd'hui, nous plongeons dans les résultats du deuxième trimestre fiscal 2026 de Disney. C'est un trimestre particulièrement intéressant puisque nous entendons pour la première fois Josh D'Amaro en tant que nouveau PDG de l'entreprise. Jordan, ravi de te voir ce matin.
Salut Alex, content d'être là. Disney, c'est toujours fascinant à analyser. Il y a tellement de pièces mobiles dans ce puzzle.
Absolument. Avant de plonger dans les détails, je dois mentionner quelque chose d'important. Ce podcast est un contenu généré par intelligence artificielle à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Rien de ce que nous discutons ne doit être considéré comme un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier qualifié avant de prendre des décisions d'investissement.
Bien dit. Bon, commençons. Les chiffres de base d'abord, revenus et profitabilité.
Exactement. Alors, Disney a affiché une croissance du chiffre d'affaires de 7% au deuxième trimestre, et le résultat opérationnel total des segments a augmenté de 4%. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'ils ont dépassé leurs propres prévisions. Hugh Johnston, le directeur financier, a mentionné que c'était une outperformance généralisée.
Pas mal. Mais je veux vraiment m'arrêter sur ce qui a déclenché cette surperformance. Tu as dit qu'elle était généralisée.
Oui, absolument. Ils disent que c'était vraiment large base. Les admissions au parc étaient plus fortes qu'attendues, la nourriture et les boissons, les marchandises, fondamentalement tout. Rien d'anormal selon Hugh, juste une meilleure performance sur la ligne de revenus que ce qu'ils avaient prévu en début de trimestre.
D'accord. Et qu'en est-il du segment du streaming? Disney Plus est une pièce maîtresse pour eux maintenant.
Oui, c'est énorme. Disney Plus a accéléré la croissance du chiffre d'affaires, passant de 11% au premier trimestre à 13% au deuxième trimestre. Et c'est vraiment excitant, cette croissance était tirée à la fois par le taux et le volume, ce qui signifie qu'ils augmentent les prix et gagnent des abonnés.
C'est ce que tu aimes voir dans une entreprise de streaming. Et la publicité?
La publicité a également connu une croissance à deux chiffres par rapport à l'année précédente. Mais voici la clé, il se concentre vraiment sur la réduction de la désabonnement. Josh a littéralement dit que réduire la désabonnement sur Disney Plus pourrait être leur opportunité la plus significative. C'est intéressant d'entendre un PDG le dire aussi directement.
C'est candide. Il reconnaît essentiellement que l'engagement et la rétention sont les vrais défis dans le streaming en ce moment. Parlons de la stratégie globale de Josh. C'est sa première conférence des résultats en tant que PDG, donc il y a probablement beaucoup de nouvelles directives ici.
Absolument. Josh a présenté quatre priorités immédiates. Premièrement, investir dans l'excellence créative. Il dit que c'est l'avantage compétitif fondamental de Disney, la qualité de la narration et la connexion émotionnelle avec les audiences.
D'accord, c'est classique Disney. Quoi d'autre?
Deuxièmement, renforcer le streaming par l'innovation du produit et de la technologie. Troisièmement, exploiter le pouvoir des sports en direct avec ESPN. Et quatrièmement, livrer sur les plans de croissance ambitieux pour Disney Experience, c'est-à-dire les parcs, les croisières, tout cela.
Donc quatre domaines. Mais Josh a également parlé d'une vision à plus long terme, non?
Oui, et c'est peut-être plus intéressant. Il parle de Disney Plus comme le cœur numérique de l'entreprise. Il l'imagine moins comme un simple service de streaming vidéo et plus comme un hub qui connecte les films, les expériences, les jeux, les marchandises, tout.
C'est un grand changement de mentalité. Donc Disney Plus ne serait pas seulement une plateforme de contenu, mais plutôt un point d'accès central pour tout l'écosystème Disney?
Exactement. Et un analyste a posé une excellente question à ce sujet, il a demandé comment cela s'aligne avec leur partenariat avec Epic Games, où l'univers Disney entre dans Fortnite. Josh a répondu en disant que Disney Plus était le hub, mais que le hub avait besoin de « spokes », des rayons. Fortnite est un rayon qui leur permet d'atteindre des audiences plus jeunes qu'ils ne possèdent pas actuellement.
C'est intelligent. Ils utilisent Fortnite comme un outil d'acquisition et d'engagement qui ramène les fans vers le centre. C'est un modèle de destination numérique plutôt qu'une simple application vidéo.
Précisément. Et c'est là que la technologie et l'IA entrent en jeu. Josh a parlé de trois applications principales, une recommandation hyper personnalisée sur Disney+ et ESPN, un ciblage publicitaire amélioré pour les partenaires, et une planification d'expérience optimisée pour les parcs et croisières.
L'IA pour rendre la planification des vacances Disney plus facile, c'est en fait une excellente application. Les familles trouvent généralement cela accablant.
Exactement. Et Hugh Johnston a ajouté un autre point intéressant, les prévisions précises de la demande de main-d'œuvre dans les parcs à thème. Cela améliore l'expérience des clients, l'expérience des employés, et réduit les coûts.
D'accord, passons aux expériences sur les parcs, les croisières. C'était une zone d'intérêt majeur pour les analystes.
Oui, les résultats ont dépassé les attentes. La revenue du segment expérience a augmenté de 7% et le résultat opérationnel de 5%. Hugh a noté que c'était des records du deuxième trimestre. Mais il y avait des vents contraires, notamment l'impact international et Epic Universe.
Epic Universe, c'est le parc Universal qui a ouvert en Floride, correct?
Oui, et cela a affecté la fréquentation à Disney World. Cependant, et c'est important, Hugh a dit que l'assistance des parcs intérieurs était en baisse de 1% au deuxième trimestre. Mais si tu excluais l'impact international, elle aurait augmenté. Donc l'impact d'Epic Universe était réel, mais limité.
Et ils s'attendent à ce que ça s'améliore au third quarter?
Oui. Josh a déclaré qu'ils s'attendent à une amélioration au troisième trimestre par rapport à l'année précédente au second quarter. Ils pensent que ces vents contraires vont se dissiper.
Qu'en est-il des nouvelles attractions et des investissements? Il y a eu des ouvertures importantes, non?
Absolument. Ils ont lancé le Disney Adventure, leur premier navire de croisière basé en Asie. Et ils ont ouvert le World of Frozen à Disneyland Paris, qui a apparemment transformé complètement leur deuxième parc. Josh y était à l'ouverture en mars.
Et dans le pipeline?
Beaucoup de choses. Josh a dit qu'ils ont plus de projets en cours dans le monde à ce moment que jamais. Les investissements de capital en 2026 se concentrent sur le nouveau navire et les agrandissements majeurs à Walt Disney World à Orlando, Disneyland et le Shanghai Disney Resort. Et il y a aussi des modèles Capital Light, comme un nouveau parc à Abu Dhabi avec un partenaire.
Parlons maintenant du contenu. Disney a une histoire incroyable avec la création de nouvelles IP au Toy Story, Zootopia. Comment Josh voit-il l'avenir de la création de contenu?
C'est une bonne question, et Josh était clair à ce sujet. Il a mentionné que Pixar seul a sorti 8 films originaux depuis 2017, plus que tous les autres grands concurrents d'animation non Disney combinés pendant la même période. C'est une statistique folle.
Cela montre vraiment leur engagement envers les nouvelles histoires originales. Et il y a eu des changements organisationnels, non?
Oui. Dana Walden dirige maintenant le Disney Entertainment Console, ce qui signifie qu'elle supervise la création, la production et la distribution pour tous les supports. Josh a dit qu'elle consolidait déjà les silos, en centralisant la programmation télévisée pour Disney+ et Hulu, et en intégrant l'activité des jeux.
Pourquoi intégrer les jeux?
Parce que cela crée des opportunités pour la promotion croisée des franchises, l'extension de la narration, et potentiellement le développement de nouvelles IP. C'est vraiment dans cette perspective One Disney, tout est connecté.
Et le contenu court est généré par les utilisateurs? Un analyste a demandé à ce sujet.
Oui. Josh a dit que Disney voyait définitivement une tendance vers le contenu court forme et était activement impliqué dans ce domaine. Ils expérimentent avec la collection de créateurs, ils mettent en place des vidéos verticales même sur ESPN, ce qu'ils appellent ESPN Vert, et ils s'assurent que leur IP apparaît sur les plateformes sociales.
C'est important, surtout pour attirer la Gen Alpha. Les enfants regardent principalement du contenu court forme maintenant.
Exactement. Josh l'a mentionné spécifiquement. Et voici la chose, ils ont récemment lancé des vidéos verticales sur Disney+, et c'est déjà en train de générer un engagement plus profond. C'est une petite chose, mais elle s'aligne sur la façon dont les gens consomment le contenu.
Parlons des orientations. Qu'ont-ils dit sur les perspectives?
Ils s'attendent à une croissance du BPA ajustée de 12% pour l'exercice fiscal 2026 et une croissance à deux chiffres pour l'exercice fiscal 2027, tous deux excluant l'impact de la 53e semaine. Hugh a également noté que le segment Disney Entertainment génère maintenant plus de revenus en streaming qu'en linéaire, plus du double au dernier trimestre.
C'est un véritable basculement. Pendant longtemps, la télévision linéaire était le moteur à combustion interne de Disney, et maintenant le streaming les dépasse.
Oui. Et c'est pourquoi Hugh a poussé au contraire quand on lui a demandé si Disney devrait envisager de se débarrasser des réseaux linéaires. Il a dit que séparer la monétisation en entreprises discrètes était extrêmement complexe et peu susceptible de créer une valeur supplémentaire pour les actionnaires.
Cela a du sens. Les réseaux linéaires produisent du contenu qui peut être monétisé sur de nombreuses plateformes. ESPN est une discussion différente, bien sûr, c'est plus tard dans sa transition.
Exactement. ESPN a à peine lancé ESPN Plus l'année dernière. C'est une très jeune entreprise DTC. Mais Hugh a soulevé un point intéressant: Netflix, Prime Video, YouTube, Paramount Plus augmentent tous leur position dans les sports en direct. C'est un domaine compétitif, mais Disney a une énorme échelle avec l'ESPN pour le marché américain.
Et la relation avec la NFL ?
Hugh a dit qu'il n'avait pas encore eu de conversation sur le renouvellement anticipé avec la NFL. Ils sont garantis par la programmation jusqu'en 2030, mais ils ne sont pas dogmatiques à ce sujet. Cependant, évalueront tout accord avec discipline et en mettant l'accent sur la valeur actionnariale. Et ils sont clairement enthousiastes à l'idée d'avoir le Super Bowl l'année prochaine.
D'accord, quelques réflexions finales. Que pensons-nous de tout cela ?
Je pense que c'est un moment charnière pour Disney. Josh arrive avec une vision claire, utiliser la technologie et l'IA pour créer une expérience client plus connectée et plus engageante, avec Disney Plus au centre. Ce ne sont pas de grands changements spectaculaires, mais plutôt une réorientation stratégique plus étroite.
Et les exécutifs semblent disciplinés dans leur approche. Ils ont quatre priorités claires et ils les exécutent. Le streaming s'améliore, les parcs surpassent les attentes, et ils investissent intelligemment dans le contenu et la technologie.
Les défis persistent, bien sûr. Le taux de désabonnement du streaming, les vents contraires macroéconomiques potentiels si les prix du gaz continuent à monter. Mais leur position fondamentale semble solide.
Et l'idée de Disney Plus comme centre d'un écosystème plus large est intéressante. S'ils peuvent vraiment interconnecter le streaming, les parcs, les jeux et les expériences de manière fluide, c'est un modèle vraiment puissant pour la rétention et la valeur de vie client.
C'est exactement ça. Avant de terminer, je dois inclure notre avertissement de fermeture. Jordan, prends-le d'ici.
Bien sûr. Tout ce qui a été discuté est une analyse générée par IA à des fins éducatives. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Veuillez faire votre propre diligence raisonnable.
Merci à tous de nous avoir écoutés sur BetaFinch. Consultez toujours les documents de la SEC officielle et les transcriptions complètes des appels de conférence pour plus de détails. À bientôt.
À la prochaine.
C'est tout pour l'analyse d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé cela utile, envisagez de soutenir BetaFinch sur Patreon. Votre soutien nous aide à améliorer nos voix et couvrir plus d'entreprises. Visitez patreon.com/betafinch pour en savoir plus. Merci de votre écoute.